Vous êtes sur RTL.
9h.
Julien Cellier.
RTL Soir.
Et c'est maintenant l'heure de votre journal. Hortense Crépin, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Mission accomplie pour le capitaine Kirk.
De la fiction à la réalité pour William Shatner, le héros de Star Trek a réussi son voyage dans la capsule de Blue Origin. 3 semaines d'avance pour les cas de bronchiolite, la faute au confinement et les premiers parents qui poussent la porte des cabinets de kiné avec leur bébé. Les victimes de violences conjugales vont bientôt pouvoir porter plainte chez elles plutôt qu'au commissariat. Le ministère de l'Intérieur va lancer une expérimentation. Et puis en fin de journal, quand des drones livrent à manger aux animaux piégés par le volcan en éruption aux Canaries.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Hortense Crépin.
C'est un épisode inédit de Star Trek qui s'est joué dans l'espace cet après-midi.
À 90 ans, William Shatner, l'interprète du capitaine Kirk, a renfilé sa combinaison de pilote en prenant place à bord de la fusée de Blue Origin. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Avec ce nouveau vol habité réussi pour l'entreprise de Jeff Bezos, William Shatner devient la personne la plus âgée à être allée dans l'espace.
Oui, et cette fois, l'espace n'était pas un décor de studio. Pour lui, il a réellement décollé. Et vu la Terre à 100 km d'altitude. Contrairement au voyage sans fin dans Star Trek, celui-ci n'a duré qu'une dizaine de minutes. Tout s'est bien passé. Une fois la capsule posée, Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, a lui-même ouvert l'écoutille et enlacé William Shatner au bord des larmes. C'est mon expérience la plus intense. C'était extraordinaire, a-t-il commenté, le pied tout juste posé sur terre. 3 autres passagers étaient avec lui, mais l'ancien Captain Kirk attirait toutes les attentions, car pour le 2e vol habité de sa société, Jeff Bezos a voulu envoyer un symbole dans l'espace et un message. La réalité commence à rattraper la fiction, et c'est notamment lui qui écrit cette histoire.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
RTL, 19h02. Elle apparaît habituellement le 15 octobre, mais cette année, elle a 3 semaines d'avance. On parle ce soir de la bronchiolite.
Le nombre de cas n'a jamais été aussi important aussitôt dans l'année, la faute au confinement de l'an dernier. Des enfants moins exposés, donc moins infectés par le virus. Résultat, un déficit d'immunité collective pour les plus petits. L'Île-de-France et le Grand Est sont donc placés en situation épidémique. Les autres régions en situation pré-épidémique. Avec des soignants qui commencent à voir arriver les premiers patients, comme dans ce cabinet de kiné de Lyon où vous êtes rendu, Frédéric Perruche.
Bonjour, Romy.
Entre les mains expertes de Nicolas Noël, kiné respiratoire, la petite Romy, 8 mois.
J'ai une main sur son thorax, une main sur son abdomen, et je viens mettre en compression légèrement les gaz de son poumon pour la faire expirer. Grâce à ça, je fais progresser les sécrétions vers la trachée.
Objectif de la manipulation, permettre à la fillette aux grands yeux bleus de mieux respirer.
Je vais te faire tousser, Romy. Et je vais te faire cracher. Là, les sécrétions que je viens de sortir, ce sont des sécrétions des voies basses, des sécrétions qui viennent des bronches.
Une fois les larmes séchées, ça va beaucoup mieux, constate Marie-Blandine, la mamie.
Oui, elle est beaucoup plus apaisée, le nez est dégagé. On pense qu'elle va... Elle va bien dormir, j'espère qu'elle va manger un peu plus. Et puis voilà.
On espère.
Et puis on reviendra demain.
Car il faudra quelques séances supplémentaires pour que le bébé soit complètement rétabli.
Le reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Alors attention, cela ne veut pas dire que la bronchiolite sera plus violente cette année, mais juste qu'elle va toucher plus de monde. Et puis d'une épidémie à l'autre, il y a un risque non négligeable de reprise du Covid, selon Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a confirmé à la mi-journée la prolongation jusqu'au 31 juillet 2022 du recours possible au pass sanitaire si la situation sanitaire s'aggravait brutalement.
Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Celle de cette professeure jetée au sol par un élève à la ville.
Le lycéen accusé de l'avoir agressé était jugé cet après-midi en comparution immédiate. Le garçon de 18 ans écope de 5 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Le parquet avait requis 2 mois de plus. Il devra aussi se soumettre à des soins psychologiques. Une peine proportionnée selon maître Kéops Larin, l'avocat de l'enseignante qui n'était pas présente à l'audience.
C'est une décision juste. On est sur un cadre judiciaire et la sanction me semble proportionnée. À la fois pour l'enseignante, c'est elle qui le dit. Elle dit voilà, très bien, il y a une sanction. Elle ne voulait pas qu'il aille en détention. C'est un jeune homme. Et qu'elle espère qu'il a compris la leçon. Enfin, pour moi, ça me semble évident aussi. Et que cette affaire, c'est aussi... Mais ça a été évoqué incidemment, mais le retour de bâton sur les réseaux sociaux est très violent, effectivement. Pour tout le monde, mais y compris pour ce jeune homme. C'est une vraie leçon.
L'avocat de l'enseignante au micro RTL de Guillemette Franquet, le lycéen devra aussi faire 140 heures de travail d'intérêt général, un stage de citoyenneté. Il ne peut pas entrer en contact avec elle.
C'est parfois un frein qui repousse les victimes de violences conjugales à porter plainte. Le fait de devoir pousser la porte d'un commissariat.
Et avec la peur de ne pas être comprise, celle d'être mal accueillie, le ministère de l'Intérieur va donc lancer à la fin de l'année les plaintes à domicile. Concrètement, les forces de l'ordre vont se déplacer chez les victimes. Une expérimentation mise en place dans plusieurs départements dont on ne connaît pas encore la liste. Mais pour Pauline, membre du collectif Nous Toutes qui lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est clairement pas la priorité.
Ce qui pose problème, encore une fois, c'est qu'on ne cible pas la question de la formation des personnes qui prennent en charge les victimes et qui prennent leurs plaintes. Peu importe, entre guillemets, où a lieu ce dépôt de plainte, si c'est à la maison ou si c'est en gendarmerie ou en commissariat, si la personne qui prend la plainte n'est pas formée, ça ne fonctionnera pas. Il y a des victimes, notamment du commissariat de Montpellier, qui font remonter des propos abjects de la part de policiers et qui véhiculent cette culture du viol, mais qui auraient très bien pu être tenues au domicile même des victimes, en fait. Donc, lancer encore une expérimentation, c'est faire penser qu'on a encore le temps d'attendre de mettre en place une politique ambitieuse avec de vrais moyens, alors que c'est la vie et le bien-être de femmes qui sont en jeu.
Cette membre du collectif Nous Toutes avec Thomas Proutot pour RTL. En bref, la justice espagnole ordonne l'incarcération de Lucas Hernandez. Le footballeur du Bayern n'a pas, selon elle, respecté une mesure d'éloignement imposée après une dispute violente avec sa compagne il y a 4 ans. L'international français fait appel de l'exécution de cette peine. Dans le même temps, son frère Théo est lui déclaré positif au Covid.
À moins de 6 mois de la présidentielle, Éric Zemmour a nouveau donné au second tour du scrutin.
Et toujours dans le même sondage, celui d'Aris Interactive pour Challenge publié aujourd'hui, le seul institut à le donner pour le moment au second tour. Le polémiste qui doit annoncer sa candidature dans les prochaines semaines, selon plusieurs proches, serait devant Marine Le Pen avec 17 à 18% des intentions de vote. 2 points de plus que la candidate du RN. Emmanuel Macron l'emporterait au final, quel que soit son adversaire.
Et il y a quelques minutes sur RTL, notre invité exceptionnel était Serge Klarsfeld. Les propos d'Éric Zemmour me révulsent, nous expliquait le chasseur de nazis qui appelle justement le polémiste à modérer ses propos, à restituer ses électeurs aux Républicains.
Et puis de son côté, l'UDI, écartée du Congrès des Républicains, justement, annonce qu'elle choisira son candidat pour l'élection le 27 novembre, une semaine donc avant le Congrès LR, annonce du président du parti, Jean-Christophe Lagarde.
Et puis la campagne continue. Demain matin sur RTL, je vous donne ce rendez-vous. Ne le manquez pas, RTL présidentiel, petit déjeuner de campagne, le premier de ces petits déjeuners dès 7h30. Marine Le Pen face à Alba Ventura, face à François Langlais, face aux questions du Café Calvi, les questions d'Yves Calvi et face à vos questions, vous les auditeurs, au 3210, ce sera demain matin à 7h30. Pour l'heure, une petite pause dans ce journal de 19h. Et dans un instant, on va parler du rail, parce qu'il n'y a jamais eu autant de marchandises transportées par train entre la Chine et la France. C'est quand même un sacré bout de chemin, elles ont triplé en 2 ans.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 19h09 sur RTL, avec cette conséquence franchement inattendue de la crise sanitaire, le boom du trafic ferroviaire.
Oui, d'après les chiffres de RTL, le trafic sur les rails entre la Chine et la France a été multiplié par 3,5 en 2 ans et la hausse continue. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Passer par le train plutôt que par les airs ou la mer, c'est le choix que font maintenant beaucoup d'entreprises chez nous.
Absolument, c'est notamment le cas de François Chevalier. Il dirige Fitchbike, qui fabrique des vélos électriques, et il a cette année opté pour le train plutôt que le bateau.
En comparaison, le fret maritime nous coûtait 4 500 $, quand le train, le fret ferroviaire, nous coûtait 12 000 $. Ça, c'était avant l'impact Covid. Aujourd'hui, effectivement, les prix du fret maritime sont passés à 18 000 $, là où le fret ferroviaire est passé à 16 000.
Alors, les trains qui partent de Chine mettent de 20 à 30 jours pour arriver en France. C'est pratiquement moitié moins que les bateaux soumis à des aléas beaucoup plus forts.
Mais qui sont ceux qui, justement, font appel désormais à ce fret ferroviaire?
Eh bien, ce sont majoritairement des petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'importer des marchandises rapidement et de manière fiable. Voilà notamment pourquoi le nombre de trains entre la Chine et la France évolue rapidement. Il y en avait à peine 14 en 2019, pas loin de 50 en 2020, et cette progression, elle continue cette année, comme le détaille Xavier Van der Peppen, directeur fret chez Forwardis, une filiale de la SNCF.
Ce que les entreprises nous disent, c'est on utilisera encore le bateau, mais le train prend sa place à côté du bateau. Les entreprises aiment bien avoir cette solution ferroviaire. Il y a moins d'avions de passagers, donc il y a moins de fret en soute. Il y a un transfert de fret aérien qui s'opère sur le train.
Et cette expansion, elle marche également dans l'autre sens. L'année prochaine, l'entreprise compte doubler les trains de fret entre la France et la Chine cette fois.
Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Et puis à deux jours des commémorations de l'assassinat de Samuel Paty, Gérald Darmanin appelle les préfets à une vigilance totale, notamment dans et autour des écoles. Des forces sentinelles pourront par exemple être déployées.
Allez, on prend la direction de l'Espagne maintenant, de l'île de la Palma. Vous le savez, un volcan est en éruption depuis maintenant presque un mois.
Le Cumbre Vieja, c'est son nom, a déjà obligé près de 7000 personnes à évacuer leur maison dans l'urgence. Résultat, des animaux se retrouvent pris au piège sans personne pour remplir leurs gamelles. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne. Alors, pour permettre aux chats et aux chiens de continuer à se nourrir, des entreprises innovent avec des drones qui remplacent les maîtres et qui leur livrent à manger.
Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Trois chiens, des lévriers, qui sont pris au piège sur une terrasse d'une maison totalement encerclée par la lave. Il est impossible de s'y rendre pour les sauver à cause des températures trop élevées. Émus par leur sort, deux entreprises de nouvelle technologie alimentent les animaux en distribuant des croquettes via un drone qui transporte également des glaçons pour les abreuver. Le petit village de Todoke est un des premiers à avoir été enseveli par la lave du volcan il y a de cela trois semaines. Pour les défenseurs des animaux, les chiens ont été abandonnés dans la précipitation et ils relèvent du miracle qu'ils soient encore en vie. Sur les images, on les voit très affaiblis et très maigres, mais hors de danger, semble-t-il. La garde civile assure avoir sauvé des centaines d'animaux domestiques et sauvages depuis le début. Plus de 600 hectares de l'île ont déjà disparu sous la lave, alors que celle-ci continue encore de jaillir du volcan.
Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne. Enfin, on connaît déjà le titre de l'album, 30. On connaît aussi le nom du premier single, Easy On Me, que vous entendez, les quelques extraits qui ont été dévoilés. Il ne manquait plus que la date de sortie. Le prochain album d'Adèle, la reine de la pop britannique, sortira, notez bien, le 19 novembre. C'est ce qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux cet après-midi, 6 ans, donc après son dernier disque.
Mais c'est plus une sortie d'album, c'est un feuilleton en 44
par
épisodes.
Par étapes, voilà.
Ouais, je vois ça. Vous êtes fan, vous, Hortense? Ouais. Je vois,
not.
Je vois. Ouais. On a hâte, nous les fans,
voilà.
On a hâte. Merci Hortense, on vous retrouve tout à l'heure à 20h sur RTL.